Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Nous recevons aujourd'hui Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec. Et si les sondages se confirment, il a des chances d'être le prochain premier ministre du Québec en octobre. C'est quand même pas loin, c'est dans quelques mois. Monsieur Milliard, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté de participer.
Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Alors, vous avez lancé votre campagne aux côtés de votre conjoint et vous êtes le premier chef ouvertement gay de l'histoire du Parti libéral, au-delà du symbole. Comment cette authenticité influence-t-elle votre manière de faire la politique aujourd'hui?
Bien, écoutez, merci pour la question. Pour moi, faire la chose publique, c'est accepter d'avoir une vie publique. Alors, c'était important pour moi, dès le départ, d'être transparent sur ma vie. Alors, c'est dans ce contexte-là que je l'ai fait. C'est pas un secret pour personne qui me connaît un tant soit peu, mais je comprends que là, les Québécois apprennent à me connaître. Alors, c'est important pour moi de faire ce geste-là qui en est un des nombreux gestes que j'ai posés depuis le début de ma campagne.
Pour les auditeurs, auditrices et auditeuristes de cette émission, c'est très important pour LE d'avoir un chef politique
qui s'affiche. Bien sûr,
bien sûr.
Puis je dirais la même chose sur une autre citation, c'est-à-dire que pour moi, c'est un élément de transparence puis d'honnêteté. Et puis tant mieux si c'est porteur d'un message qui est intéressant aussi.
Alors, vous avez récemment dit, j'aime beaucoup les politiques parce qu'on peut lire beaucoup de choses que vous dites. Vous avez récemment affirmé avoir arrêté de vouloir faire plaisir à tout le monde dans un contexte où l'on voit une montée des discours polarisants. Au Québec, comme partout dans le monde, et surtout envers les communautés qui nous écoutent présentement, LGBTQ+, de quelle façon cette assurance se traduit-elle dans vos engagements pour protéger les acquis de ces communautés?
Effectivement, moi, je sens qu'un grand glissement, à tout le moins médiatique, sinon social, sur la protection de certains droits, puis le respect du vivre ensemble. Donc, ça m'inquiète, ça fait partie de mon engagement politique. De défendre cette voie-là. Mais je pense aussi que les politiciens ont un rôle à jouer dans les sujets d'actualité. Vous savez, les journalistes, les animateurs retransmettent ce qui se jase dans la société et les politiciens sont un des principaux fournisseurs, finalement, de ce qu'on discute. Alors moi, ce que j'invite les Québécois à réfléchir, c'est avec moi, à la tête du gouvernement du Québec, c'est un ton qui est beaucoup plus conciliant, qui est beaucoup plus bienveillant, qui est à la recherche du bien commun. Et on a des exemples partout dans le monde, mais aussi au Canada et au Québec, de politiciens qui tentent davantage de diviser. C'est sûr qu'il y a des sujets qui divisent.
Oui.
Et c'est pour ça que je dis que je ne peux pas plaire à tout le monde. Alors, en étant chef du Parti libéral du Québec, c'est impossible que tous les Québécois m'aiment. C'est la nature de la chose. Mais j'espère que le ton et la façon que je vais traiter les adversaires vont inviter les gens à considérer nos propositions, mais aussi peut-être à mes adversaires à adopter un style qui me ressemble davantage et qui, je pense, ressemble aux Québécois qui nous écoutent, c'est-à-dire des idées, de la rigueur, de la méthode et pas juste des clips puis des insultes.
Dans certains commentaires sur les réseaux sociaux, on évoque une forme d'invasion par rapport à la représentativité de la diversité sexuelle en politique. Que répondez-vous à ceux qui craignent que l'identité des chefs de parti prenne le dessus sur les enjeux de gouvernance?
Bon, écoutez, premièrement, moi, je ne m'abreuve pas de tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Alors,
je me
préserve bien de ça. Là, je sais que c'est un carrefour d'informations parfois utiles, souvent inutiles. Alors, ça fait partie de la vie politique. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se retrouvent dans des nouveaux styles de politiciens. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est pas nécessairement juste sur la vie privée ou sur l'expérience de vie des politiciens, mais c'est sur la capacité de rassembler puis la capacité d'inspirer. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de titre professionnel particulier, ça n'a pas de provenance géographique particulière. C'est une attitude d'ouverture aux autres, d'ouverture aux idées. Puis à faire de la politique, c'est vouloir être avec le monde, c'est aimer le monde, c'est essayer de vouloir comprendre le monde. Puis comprendre le monde, c'est comprendre qu'on n'est pas tous pareils. Alors moi, je suis porteur d'une identité, d'une expérience. Vous êtes porteur d'une identité, d'une expérience. Et moi, j'aimerais bien diriger le gouvernement de tous les Québécois. Alors, je me présente, je me dévoile et je vais être à l'écoute des autres. Et ceux qui ne veulent pas m'écouter, bien écoutez, ils feront d'autres choses. C'est la vie.
C'est la démocratie.
Voilà.
Alors, je vous amène sur des enjeux qui sont importants pour les communautés qui nous écoutent. Le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie relève actuellement du ministère de la Condition féminine. Vous avez déjà exprimé des réserves sur cette structure. Pourquoi croyez-vous que un transfert, le retour vers le ministère de la Justice serait plus approprié?
Bien, à cause du glissement qu'on observe, je pense qu'on est, c'est important d'avoir des balises sérieuses sur la façon dont on encadre la protection des droits des minorités. Puis c'est une discussion que j'ai beaucoup avec Jennifer McCarron, qui est députée de Westmount-Saint-Louis, oui. qui a été une voix forte et qui est une
voix
forte
régulière
encore.
À cette émission, oui.
Effectivement, donc Jennifer et moi sommes du même avis sur plusieurs questions qui touchent les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Alors évidemment, elles peuvent être assurées de notre support dans ce sens-là, mais je pense que la place où on met ces questions-là dans l'organigramme, dans la structure, envoie un message politique fort. Mm-hmm. Et je pense que la question de la protection des droits, c'est un élément qui a trait à la justice, même si ensuite on veut être dans le vivre ensemble puis dans le quotidien des choses, ça demeure des éléments de protection des droits individuels.
Les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre font face à des défis majeurs de santé mentale et d'accès aux soins. Ouais. Comment un gouvernement sous votre direction compte-t-il concrètement lever les barrières administratives et médicales qui freinent encore l'épanouissement des personnes trans et non-binaires?
Oui, alors c'est un sujet qui est particulièrement un fléau pour ces communautés-là, mais il est plus large aussi. Il faut faire de la santé mentale une priorité nationale. Vous savez que je suis pharmacien aussi de profession. Oui. La surconsommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, d'antipsychotiques chez les adolescents est extrêmement préoccupante. Puis elle est aussi dans plusieurs communautés pour toutes les raisons dont on parle depuis quelques minutes. Alors, la santé mentale, ça passe par une reconnaissance de ce fait-là qui existe. Il y a un groupe de jeunes en ce moment, justement, qui sont en train de faire la promotion d'avoir une espèce de commission d'études transpartisane sur comment on va adresser la santé mentale chez plusieurs communautés. Alors moi, je fais partie des gens qui veulent mettre ça à l'avant-plan. Une des principales façons, évidemment, il y a une question de financement, mais il y a une question d'agir en prévention. Si on veut que nos organismes communautaires puissent aider et avoir leur mission accomplie. Ils ont besoin du financement qui vient avec. J'ai rencontré d'ailleurs plusieurs groupes du mouvement communautaire à bout qui ont fait une très belle prestation justement pour exposer les problèmes. Alors, il faut savoir qu'avec nous, qu'avec un gouvernement libéral, on va avoir une préoccupation. C'est sûr qu'on a une préoccupation économique parce que c'est ça qui va nous donner la richesse pour investir dans notre filet
social.
C'est
sûr que le gouvernement nage pas sur l'or présentement.
Et le gouvernement ne nage pas sur l'or et pourtant les besoins sont immenses. Mm-hmm. Alors soutenir nos organismes communautaires, c'est aussi un projet économique parce qu'il va falloir prendre l'argent quelque part. On peut pas augmenter les impôts des Québécois. On est déjà surtaxé. Alors on doit générer des nouvelles richesses pour aider justement nos organismes communautaires, à aider nos jeunes, à aider les différentes communautés. C'est un mobile qui tient tout ensemble de façon fragile, mais qu'il faut solidifier.
Je me permets de déborder parce que je trouve ça important. La santé mentale, ça semble être le parent pauvre de la santé au Québec.
Oui.
Un gouvernement milliard ferait quelque chose avec ça?
Ce qu'on a réussi à faire dans les siècles derniers avec la santé physique, on doit le faire avec la santé mentale. La déstigmatiser, l'objectiver et donner les moyens de la traiter. Et en ce moment, que ce soit dans différentes régions ou pour différents types de maladies qui attraquent la santé mentale, on n'a pas la même façon que quand c'est des problèmes de santé physique. Alors moi, je veux prévenir la surconsommation de médicaments. Venant d'un pharmacien, c'est quand même important de le mentionner. Et ça va venir avec plus de prévention et avec une protection, justement, des libertés puis des droits des communautés. Parce que la santé mentale vient souvent d'une... C'est parfois chimique, mais c'est aussi parfois social. Ça vient d'une isolation, ça vient d'une privation d'un certain bonheur, d'une certaine liberté. Alors, c'est ça sur laquelle il faut travailler. Et ça, la principale qualité d'un politicien, c'est d'être ouvert à ces questions-là et de comprendre le rôle qu'il peut jouer plutôt que de juste voir ça comme une colonne de revenus ou de dépenses.
Vous êtes quand même un homme d'affaires, parce qu'un pharmacien, de toute façon, ça gère une business aussi, mais vous avez été dans le monde des affaires aussi.
Bien sûr.
Et là, j'aimerais vous amener sur, on en a parlé, le communautaire à bout.
Oui.
Le communautaire fait beaucoup de choses que le gouvernement ne pourrait pas payer parce que c'est beaucoup, mais c'est sous-financé. Oui. Encore une fois, je sais que le gouvernement ne nage pas sur l'or, mais on va faire quoi, là? Un gouvernement milliard ferait quoi pour ces organismes?
Premièrement, on va définir quel est le rôle du gouvernement dans le secteur communautaire et quel est le rôle de peut-être d'autres sources de financement, qu'ils soient privés, qu'ils soient par rapport à des levées de fonds. Moi, je pense que le soutien à la mission, donc de payer le quotidien, ça revient au gouvernement. Donc, on doit soutenir davantage les organismes communautaires. J'entends souvent Des gens du communautaire
là,
nous disent...
Je vous arrête parce que je vais souligner, parce que pour beaucoup d'organismes communautaires, ouais, c'est vraiment le nerf, le problème, le fondamental, c'est le financement de l'émission. Fait que vous vous engagez à revoir ça, là.
Effectivement. Alors, on pourra pas dire oui à toutes les demandes, bien sûr. Là, j'arrive pas avec une baguette magique à votre antenne aujourd'hui. Mais moi, quand j'entends des ministres de la CAQ dire à des organismes communautaires, ben écoutez, là, pour payer votre facture d'électricité, allez donc voir une fondation privée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer que les organismes puissent remplir cette mission-là. Et s'il y a des projets spéciaux pour lesquels le privé peut aider, tant mieux. Mais on ne peut pas laisser les gens en suspens comme ça, alors qu'ils sont des gens qui vont faire éventuellement économiser de l'argent aux services de santé. Parce que si on a des organismes communautaires de qualité qui remplissent leur mission, bien, c'est moins de gens qui se pointent à la pharmacie, c'est moins de gens qui se pointent dans les banques alimentaires, c'est moins de gens qui se pointent à l'urgence. Et ça augmente, ça décuple les coûts pour l'État. Alors, il faut le voir comme un investissement et non comme une dépense. Mais bien sûr que je suis pas le magicien d'Oz non plus. Il y aura des arbitrages à faire, ça c'est bien certain. Puis les gens du communautaire le savent. Ils font des demandes, mais ils sont réalistes aussi sur la capacité de payer. Mais ils se font entendre. Ils l'ont fait de très belles façons. J'en ai vu des campagnes politiques dans les dernières années. Celle-là a été faite de fort belles façons dans les dernières semaines.
Il me reste une minute. Oui. Ça me tente de vous faire de la politique. Nous, ça fait longtemps qu'on évite beaucoup de politiciens de tous les partis pour parler des communautés. Oui. Le parti qui est votre adversaire présentement dans les sondages refuse de nous parler. Ah. Vous pensez quoi de ça?
Ben écoutez, on parle justement beaucoup de l'accès des politiciens qui parlent à certains médias, qui ne parlent pas à d'autres. Écoutez, moi, je pense que vous êtes une voix unificatrice. Vous représentez des communautés qui font partie de l'ensemble québécois. Vous le faites de fort belle façon. Et moi, je suis là. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points, mais je veux dire, cet échange-là qu'on a avec les médias, donc avec les Québécois qui vous écoutent, c'est ça la base de la politique. Si on veut pas communiquer avec la population, je sais pas ce qu'on fait en politique. Alors moi je m'engage à être le plus transparent possible sur mes idées. J'espère qu'elles vont rassembler des gens qui vous écoutent, mais les gens vont savoir à quelle enseigne je loge. Et évidemment, on peut pas faire plaisir à tout le monde en politique. Là, c'est l'art du choix.
On va espérer peut-être de vous recevoir à nouveau en septembre. Je sais que vous allez être très occupé en campagne, mais on va essayer de refaire ça à nouveau parce qu'on serait très intéressé de voir comment les choses vont.
Ça me ferait grand plaisir, puis je vous remercie de l'invitation.
Bien, merci beaucoup, Charles Millière, d'avoir été avec nous. Charles Millière, donc, est chef du Parti libéral du Québec.